Happy Hour scientifique.
Ah, c'est goûtu, hein. Ça a du retour.
La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris.
Alors, bonne santé, les gueux. Bienvenue, Munich.
Aura été secouée par l'intensification des catastrophes climatiques. 2025 nous réserve peut-être quelques surprises en matière d'événements extrêmes. Rien que pour ce mois de janvier, l'actualité a été marquée par la tempête Chido à Mayotte, un tremblement de terre au Tibet ou encore les inondations en Bretagne, qui sont d'ailleurs toujours en cours. Mais comment expliquer la récurrence de ces événements ? Justement, nous accueillons Pascal You, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui va nous éclairer sur cette question pendant l'émission. Bonsoir Pascal.
Bonsoir à tous.
Et en plus de la recherche, vous êtes auteur du livre « Le temps s'est-il détraqué ?». L'objectif de cet ouvrage est de comprendre les catastrophes climatiques. Aussi, vous intervenez régulièrement dans les médias pour répondre aux questions des non-spécialistes et pour vulgariser ce sujet complexe.
Tout à fait.
Et autour de la table, on va retrouver Jocelyn pour l'interview.
Bonjour à tous.
Sacha pour les gorgées de science.
Salut tout le monde.
Manoli qui va nous parler de la notion de catastrophe naturelle et des inégalités des hommes face à ce phénomène.
Bonjour.
Louise qui va animer le Caps ou pas Caps.
Salut.
Et PA qui sera à la technique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va réviser quelques actualités scientifiques avec Sacha pour les gorgées de science.
Est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça ?
Et alors, avant de parler des catastrophes naturelles, moi je vous propose de parler un peu des catastrophes bien humaines. Make America beaucoup dans la merde. Oui, l'investiture de Donald Trump est bien là, ça y est. Monsieur Musk y va de ses gestes d'amour, le bras bien droit. Vous l'avez tous vu passer. Mais ce que vous n'avez peut-être pas vu passer, ce sont les décisions de la politique américaine autour de la science et de la santé. Alors là aussi, c'est royal. Le journal Politis a révélé cette semaine, sous la plume de Thomas Lefebvre, que le ministre de la Santé américain, de la Santé américain, a mis en place des mesures très strictes dans ses organes fédéraux. Parmi celles-ci, on a une suspension des communications externes, annulation de toutes les réunions prévues au sein des institutions, interdiction de tout déplacement professionnel pour une durée indéterminée, suppression des comités inclusion et diversité. De plus, il est prévu la mise en place d'un système de dénonciation par mail pour cafeter ses collègues qui ne respecteraient pas les nouvelles mesures autoritaires du gouvernement d'extrême droite. Parmi les institutions sous tutelle du ministère de la Santé états-unien, il y a notamment la FDA, Food and Drug Administration, qui est en charge de surveiller les médicaments et produits alimentaires du pays. Il y a aussi les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et les NIH, qui sont les Instituts nationaux de santé responsables de la recherche médicale et biomédicale du pays. On apprend aussi que la publication d'articles scientifiques et de rapports de santé comprenant ceux sur la mortalité sont suspendus jusqu'au 1er février. Ensuite, qui vivra verra, comme on dit. Pour passer outre ces directives, toute exception doit être demandée et approuvée par des personnes nommées par le président, Trump, selon une note interne d'une délégation INSERM d'Amérique du Nord à l'attention des équipes françaises expatriées.
Et le ministre de la Santé, alors ?
Eh bien, celui-ci sera probablement Robert Kennedy Jr., le neveu de John Fitzgerald Kennedy, connu pour ses positions complotisme et son militantisme anti-vax. Il aurait par ailleurs tenu des propos ouvertement racistes, tels que, je cite, « Le Covid est fait pour attaquer les Caucasiens et les Noirs. Les personnes les mieux immunisées sont les Juifs Askenan et les Chinois. » Il est auditionné par le Sénat américain depuis hier, mercredi 29 janvier, pour savoir si celui-ci sera bel et bien le futur ministre de la Santé.
Bon, et le dernier mot sur la suite ?
Et bah, pour finir sur une note toujours pas positive, les États-Unis, parmi les signatures des 46 décrets du président fou furieux, ont annoncé leur volonté de sortir de l'Organisation mondiale de la santé. Si rien ne change, cette mesure prendra effet en janvier 2026. Trump évoquait alors comme justification un soi-disant contrôle de la Chine sur l'OMS et les prétendus manquements de l'OMS au début de la pandémie du Covid. Même s'il est vrai que l'enquête sur l'origine du virus possède de nombreuses zones de flou, les méthodes trumpiennes risquent d'avoir des conséquences très importantes sur la politique de santé mondiale. Les USA comptant pour un cinquième du budget de l'OMS. Bon, je ne vais pas parler ici des autres prises de décision, notamment au niveau écologique, car là, je crois qu'on court à la catastrophe.
Merci Sacha. Et maintenant, Pascal, on va se détendre un petit peu. Du coup, on va passer au shot à l'invité avec Jocelyn.
Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar.
Alors, ou vous suivez votre intuition, ou vous vous dégonflez.
Et du coup, on trinque à la tienne.
Alors Pascal, bonjour. Alors rappel, les shots à l'invité, c'est une minute pour répondre à plein de petites questions. Et puis on lancera l'interview. Est-ce que tu es prêt ?
Aussi prêt que je peux.
Alors c'est parti. Pascal, bonjour, comment vas-tu ?
Très bien, merci.
Est-ce que tu peux nous décrire ta météo intérieure ?
Très agité, très sombre, très noir, surtout en ce moment.
Ouais. Tu viens d'où ?
De Palaiseau.
D'accord. Si tu n'étais pas devenu climatologue, qu'est-ce que tu aurais aimé faire ?
J'aurais quand même été chercheur dans n'importe quelle autre discipline.
Okay. Donc tu rentres dans un bar, c'est l'happy hour, qu'est-ce que tu commandes ?
Une Guinness.
Est-ce qu'il faut être tête en l'air pour prédire le climat ?
Non.
Et enfin, Pascal Youd, dernière question, qui aurait pu prédire ?
Moi.
Ok. Eh ben c'est bon, là, toutes les questions. Alors, merci pour la pause. On va commencer donc l'interview à proprement parler. Et d'abord, j'aimerais qu'on fasse un petit peu de vulgarisation. On a annoncé le sujet, c'est catastrophe naturelle, événement climatique extrême. Donc, est-ce que, Pascal, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un événement climatique extrême ?
Alors, il y a plein d'exemples. Un événement climatique extrême, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui sort des normes, quelque chose qui nous surprend. Donc il y a plein de définitions possibles, des définitions mathématiques, des définitions physiques, des définitions sociologiques et politiques. Tout l'art du scientifique que je suis, en fait, c'est de pouvoir mêler toutes ces définitions entre elles, entre mathématiques, physiques et socio-économiques, pour en faire quelque chose de compréhensible. Alors c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, mais l'extrême, c'est ce qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc on a en tête des vagues de chaleur extrêmes, des vagues de froid extrêmes. Alors des cyclones, il n'y a pas de petits cyclones. Un cyclone, c'est extrême en soi. Il n'y a pas de cyclone anodin. Dès qu'on parle de cyclone, ça devient quelque chose de très dangereux. C'est pareil pour les tempêtes. Il n'y a pas de petites tempêtes. Les tempêtes, dès qu'on utilise le mot tempête, c'est que c'est grave, il va se passer quelque chose de potentiellement dangereux. Donc voilà, donc les extrêmes ont des noms. On ne dit pas juste extrême, on va parler de tempête, de cyclone, c'est deux choses complètement différentes, de vagues de chaleur, de canicule, qui sont aussi des choses potentiellement un peu différentes, de vagues de froid, ou des vagues de froid qui durent juste un jour, quelques heures, ou c'est des choses comme... Oui, des sécheresses, les sécheresses, c'est des choses qui durent très très longtemps, c'est ce qui a touché la Californie et qui est responsable des feux à l'heure actuelle.
D'accord. Bah, on pourrait peut-être en profiter justement pour définir. Tu as dit qu'il y avait une différence par exemple entre tempête et cyclone. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette différence ?
Alors, quand on parle de cyclone, c'est souvent des cyclones tropicaux qui naissent dans la bande équatoriale, dans la bande tropicale, donc soit dans l'Atlantique, soit dans l'océan Indien, comme Chino, ou dans le Pacifique. Et c'est des choses qui naissent à cause d'un contraste de température entre l'océan et l'atmosphère. Il faut des petites conditions de vent qui vont faire tourner le bazar, qui va devenir comme une machine à laver, qui tourne très vite, et après qui va se décaler progressivement. Ça ne va pas très très vite, un cyclone. Il y a des vents très forts, mais c'est la machine à laver elle-même ne se déplace pas très rapidement. Alors que les tempêtes, comme Herminia, Ivo, tout ça, c'est des choses qui ne naissent que dans l'atmosphère et qui traversent l'océan Atlantique, donc on en a chez nous, très rapidement. Donc là, c'est des structures qui vont très très vite et qui vont d'ouest en est à nos latitudes. Il y a l'équivalent dans l'hémisphère sud, mais celles qui nous intéressent, ce ne sont pas du tout des cyclones, c'est des tempêtes qui voyagent très rapidement.
D'accord. Et l'autre distinction dont tu parlais, c'était canicule, vague de chaleur. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci la différence ?
Alors, les vagues de chaleur durent longtemps. Alors, mais pour la notion de canicule, en particulier selon Météo France, il faut dépasser un certain seuil de température qui dépend de l'endroit où on se trouve d'ailleurs. La notion de canicule à Marseille n'est pas du tout la même qu'à Lille. Donc, si on dépasse un certain seuil pendant plus de 5 jours, donc on va parler de canicule, une vague de chaleur, c'est plus vague, c'est quelque chose qui peut durer 15 jours et avec une certaine valeur de température.
D'accord. Et tout à l'heure, tu nous disais donc que décréter un événement extrême, c'est tout un tas de facteurs mathématiques, physiques, mais tu as dit aussi sociaux. C'est quoi ? On prend en considération les risques, les dégâts ?
Alors, pour qualifier l'extrême, non, pas nécessairement, mais quand on parle... On est très sensible aux inondations qui nous touchent, ou par exemple à une tempête qui nous touche, mais si ça tombait quelques centaines de kilomètres plus au nord ou ailleurs, en fait, on n'en parlerait pas. Donc, il y a des événements extrêmes extraordinaires dont on ne parle absolument pas. La vague de chaleur la plus intense jamais enregistrée à la planète, sur cette planète, en fait, a eu lieu il n'y a pas très longtemps, mais ça a eu lieu au milieu de l'Antarctique. C'est-à-dire que la température au milieu de l'Antarctique...
Une vague de chaleur
en Antarctique. Une vague de chaleur où la température a frôlé le 0 degré. Alors 0 degré, ce n'est pas spectaculaire. Sauf qu'en général, il fait plutôt moins 30 degrés à cet endroit-là. D'accord. Donc 30 degrés en plus que l'habitude. On n'en a pas parlé parce que personne ne vit là-bas. Qu'il y a un orage d'eau liquide au milieu du Groenland, on n'en parle pas, alors que c'est complètement exceptionnel. C'est quelque chose de... Normalement, au milieu du Groenland, il ne pleut pas. Il y a de la neige, mais il ne pleut pas. Et là, en 2021, il a plu, ce qui est aussi quelque chose d'extraordinaire. Donc, notre vision de l'extrême dépend vraiment de l'endroit où on se trouve. Donc si on revient à nos latitudes en France, une vitesse de vent de 100 degrés en Bretagne, on en parle, c'est anecdotique, mais ça crée très peu de dégâts, parce que les toits des habitations en fait, sont conçus pour résister à ce genre de vitesse de vent. Par contre, 100 degrés en Île-de-France, ça commence à piquer, parce qu'il y a beaucoup de... ça va créer des ravages. C'est ce qui s'est passé en 99 ou à d'autres tempêtes. Donc, le même événement météorologique, en fait, va avoir des événements des conséquences très différentes que l'on se trouve en Bretagne ou à Paris.
D'accord. Et du coup, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quel effet a le réchauffement climatique sur tous ces événements ? Est-ce que ça augmente l'intensité, la fréquence ? Est-ce que c'est égal pour tous les événements ou pas ?
Alors ça, c'est la question à 1 million d'euros. Ça dépend, évidemment. Donc, il y a des événements climatiques extrêmes, comme les vagues de chaleur, en fait, dont la probabilité est multipliée par 10 à peu près tous les 10 ans.
Ah oui, d'accord.
En gros, donc, quelque chose qui était très improbable au début du XXIe siècle a une chance d'arriver qui est multipliée par 100 maintenant.
Ah oui, ok.
Donc, pour les vagues de chaleur. Les vagues de froid, 100... et sans qu'elles disparaissent, en fait, elles deviennent de moins en moins probables. Donc ça, c'est quelque chose d'assez attendu. Mais par contre, pour les tempêtes, on ne sait pas.
D'accord. Il y a pas
tempête, cyclone, on ne sait pas. Il n'y a pas de tendance particulière. Il n'y a même pas de raison particulière pour que ça augmente ou ça diminue. Et quand je parle d'augmentation de probabilité, multipliée par 10 tous les 10 ans, ce nombre, en fait, est très difficile à obtenir. Donc on doit faire beaucoup de calculs pour avoir ce nombre. On sait que ça va augmenter, mais savoir que c'est multiplié par 10 tous les 10 ans, ça c'est difficile à savoir.
Qu'est-ce que c'est de la statistique, de la mécanique des fluides
On fait de la statistique, on fait de la mécanique des fluides, enfin on essaie de comprendre l'écoulement de l'atmosphère, parce que c'est bien de savoir qu'il fait chaud, mais savoir pourquoi il fait chaud, c'est très, très important. Donc c'est des structures atmosphériques très particulières. Pourquoi il fait encore plus chaud quand le changement climatique arrive, ça c'est quelque chose de très difficile. En fait, il se trouve que les extrêmes chauds augmentent beaucoup plus vite que la température moyenne de la planète, surtout en Europe de l'Ouest.
D'accord.
Donc ça c'est le message à retenir, c'est que en fait, et en particulier en France on se réchauffe plus vite et le plus chaud se réchauffe encore plus vite.
D'accord, il y a une inégalité, c'est pas un phénomène homogène en fait sur la planète.
Tout à fait. Donc il y a des régions sur la planète, même dans l'hémisphère nord, qui ne se réchauffent pas, qui ont même un peu tendance à se refroidir. Donc l'est du Canada ne se réchauffe pas spécialement. Alors que nous en Europe, on se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète.
D'accord. Donc, typiquement, on parlait des effets du réchauffement sur certains, comme les vagues de chaleur. J'avais lu à un moment que ce qui participe beaucoup à la formation des cyclones, c'est la température notamment de l'océan, l'évaporation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un impact sur les pluies, etc., par exemple?
Oui, alors il y a plusieurs choses dans les cyclones. Il y a la genèse du cyclone. Donc pour qu'un cyclone naisse, il faut qu'il y ait un fort contraste entre l'air et l'eau, un fort contraste de température. Mais une fois que le cyclone est né et qu'il a commencé, il suffit qu'il y ait de l'eau chaude. Donc de l'eau chaude, alors le cyclone, qu'est-ce qui est dangereux dans un cyclone? Il y a la vitesse du vent, donc on a des vitesses supérieures à 200 km/h, 300 même pour certains cyclones, donc c'est ce qui est monumental. Mais ce n'est pas forcément ça qui crée le plus de dégâts. Alors à Mayotte, c'est ce qui a causé beaucoup de dégâts, mais si on regarde des cyclones comme Katrina ou Irma qui a touché les Antilles il y a quelques années, ce qui a causé du dégât, c'est la précipitation, c'est l'eau qui est tombée. Et l'eau qui tombe, en fait, même si on ne constate pas forcément une augmentation des vitesses de vent pendant les cyclones, on va constater une augmentation de la précipitation liée aux cyclones, parce qu'une atmosphère chaude, peut retenir plus d'eau. Donc c'est un phénomène physique qui est très connu depuis très longtemps. Donc une température plus chaude favorise plus d'eau liquide et gazeuse dans l'atmosphère, qui est susceptible de tomber en très peu de temps.
Merci pour cette première partie d'interview. Maintenant, on va passer à la chronique de Manoli, qui va nous expliquer la nomination des catastrophes naturelles, justement.
Bonjour à tous.
Pourquoi donne-t-on des noms aux catastrophes ?
Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas seulement pour le style. On nomme les catastrophes naturelles pour de vraies raisons. D'abord, c'est parce qu'on retient mieux les consignes de sécurité quand un phénomène a un nom. Un ouragan appelé Katrina ou Irma marque plus les esprits qu'un simple bulletin météo. Donc nommer une catastrophe permet de l'identifier rapidement dans les messages d'alerte au milieu de nombres ou de termes techniques. C'est donc un moyen pour alerter efficacement la population, mieux communiquer sur les risques et aider les gens à se préparer. Et puis, quand une catastrophe n'a pas de nom, on a tendance à la sous-estimer. Pourtant, ce n'est pas parce qu'un phénomène n'est pas un ouragan qu'il n'est pas dévastateur. En plus, avec l'augmentation du nombre de catastrophes, les nommer permet aussi de mieux les distinguer et d'éviter les confusions.
Eh bien, ça fait beaucoup de raisons, mais comment on les choisit ces noms, justement ?
Eh bien, il y a deux systèmes pour nommer les catastrophes. En Europe, ce sont les régions touchées qui choisissent, et ils choisissent souvent des noms en hommage à des personnalités publiques. Et dans le reste du monde, c'est l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, qui s'en charge via 5 organismes régionaux. Chacun écrit 5 listes de prénoms qui sont réutilisés en rotation, en alternant nom féminin et masculin. Donc un nom peut être réutilisé, sauf s'il est associé à une catastrophe meurtrière, comme Katrina, Sandy, Irma ou Chino plus récemment. Mais l'OMM ne nomme que les catastrophes qui sont prévisibles, donc c'est-à-dire que les tsunamis et les séismes ne sont jamais baptisés. Et pour un vent, il faut qu'il dépasse les 119 km/h et qu'il s'accompagne de pluies torrentielles, donc il faut en avoir sous le capot pour être nommé. Dans certains pays, comme en Angleterre, le public peut proposer des noms. Et en Allemagne, on peut carrément acheter une catastrophe en son nom grâce au programme Adopt Overtex. Donc c'est 390 € pour un anticyclone, 260 € pour une dépression, de quoi financer la recherche.
Il est où le couac ?
Eh ben, il y a toujours un mais. La nomination des catastrophes présente aussi des inégalités. En effet, elle peut être instrumentalisée. Aux États-Unis, en 2012, un média privé a voulu nommer des tempêtes sous prétexte de toutes les bonnes raisons qu'on vient de voir. Mais ça a aussi fait polémique parce que d'une part, c'était une campagne de marketing. Et d'autre part, seules les catastrophes touchant les grandes villes avaient été nommées et pas celles qui frappaient les minorités. Et ensuite, c'est l'OMM qui nomme, alors que ce ne sont pas du tout les pays qui la constituent qui subissent les pires catastrophes. Et donc même si en théorie les noms choisis doivent être locaux, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le typhon Haiyan a été rebaptisé Yolanda en arrivant en Philippines. Et enfin, une étude a montré que les catastrophes portant des noms féminins font moins de victimes que celles avec des noms masculins. Donc un Alexandre paraîtrait plus menaçant qu'une Alexandra, comme par hasard. Bref, nommer les catastrophes, c'est utile, mais derrière chaque nom, il y a aussi des choix et des inégalités qu'on ne devrait pas ignorer.
Merci pour ces explications très claires. On se retrouve après la pause musicale avec Umbrella de Rihanna et Jay-Z.
No clouds in my stones. Let it rain, I hydroplane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And G5s are better, you know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart, and we're never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, il est 20h24 et vous écoutez l'Happy Hour Scientifique.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Alors, Pascal Liu, à nouveau, on peut reprendre donc. Tu nous expliquais plein de termes techniques des événements extrêmes, mais il y en a un dont on n'a pas encore parlé, c'est l'anticyclone. Qu'est-ce que c'est qu'un anticyclone, du coup ?
Très bonne question. Donc, un anticyclone, c'est une zone de haute pression. C'est comme si on souffle dans un ballon, donc la pression à l'intérieur du ballon est plus élevée que la pression à l'extérieur du ballon. Donc l'air a envie de sortir. Donc en gros, un anticyclone, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc le ciel est clair, il n'y a pas de vent. Et l'été, c'est très propice aux vagues de chaleur. Donc en 2003, c'était il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, 15 000 morts pendant une vague de chaleur en France, parce qu'un anticyclone s'est installé, ça dure très longtemps. Un anticyclone peut durer très très longtemps. Donc pendant très longtemps, il n'y aura pas de vent, donc les éoliennes, ça ne marche plus. La pollution, on ne la dissipe plus par du vent, et il se met à faire chaud. Donc l'anticyclone en été, c'est ce qui génère les vagues de chaleur.
Non, tu me dis si je me trompe, j'ai cru comprendre qu'il y avait un anticyclone qui protégeait l'Europe de l'Ouest en partie, qui fait qu'à notre niveau, géographiquement, on n'a pas beaucoup de tempêtes de neige ou ce genre de choses, alors que sur la face atlantique aux États-Unis, c'est l'inverse. Enfin, je me trompe peut-être.
Non, on a ce qui s'appelle l'anticyclone des Açores, qui est au sud-ouest de l'Europe, mais qui peut remonter. Alors, il y a aussi un anticyclone qui peut s'installer de manière durable entre la Scandinavie et le nord de la France. Et c'est celui qu'on redoute un petit peu l'été, parce que c'est à cause de ça qu'on a des grosses vagues de chaleur.
D'accord.
Donc, l'anticyclone... Donc autour de l'anticyclone, l'air circule dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ce qui veut dire que l'air va éviter l'anticyclone. Donc s'il est basé sur nous, on n'aura pas de vent, pas d'air. Alors on peut dire pas de vent, pas de tempête, ok, mais pas de vent, c'est que la pollution ne s'en va pas et puis il se met à faire très sec pendant très longtemps.
D'accord.
Donc ce qui s'est passé par exemple en juin 2021 au Canada, donc on a presque atteint des températures de 50 degrés. Donc oui. Là, on n'a pas ce genre de température en France, hein, 50 degrés, oui. Le record à Paris c'est 43 et quelques.
C'est déjà
50
pas mal.
Degrés, on est encore loin, mais c'est la même latitude, une situation comparable, et c'était un anticyclone qui était très, très, très bien pesé. Donc il n'y avait pas de vent, ok. Et il s'est mis à faire très chaud, et là, il a suffi d'une étincelle pour tout faire brûler. Et comme il n'y avait pas de vent, pas d'humidité, tout a brûlé.
D'accord. On peut peut-être aussi en parler directement des catastrophes naturelles, parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps, et voir justement l'impact du réchauffement climatique dessus. Je pense, mais les incendies typiquement qu'on a eu actuellement en Californie, quel impact a l'activité humaine sur leur formation ?
Alors là aussi, il s'agit de distinguer plein de choses. On a des événements météorologiques, donc des cyclones, des anticyclones, des tempêtes, tout ça. Le feu n'est pas un événement météorologique en soi, c'est un événement, géophysique, qui peut être déclenché par amélioré ou favorisé par des événements météorologiques. Donc les feux à Los Angeles, c'est exactement ça. Donc, on part d'une situation de sécheresse intense, il n'a pas plu une seule goutte en Californie du Sud pendant plusieurs mois. Et alors, ça, c'est des conditions déjà propices au feu. Et en plus, vient s'ajouter donc un gros anticyclone à l'est de Los Angeles. Donc, c'est de l'air chaud très, très lourd. Et l'air va dévaler les pentes des montagnes à l'est de Los Angeles pour créer ce qu'on appelait le vent de Santa Ana, qui est un peu comme du vent katabatique qu'on voit en Antarctique, mais c'est un vent qui est très sec, très chaud, parce que ça se réchauffe en descendant, c'est le goût de la mécanique, de la thermodynamique, ça se réchauffe en descendant. Et on avait des vents de vitesse supérieure à 100 km/h en atteignant Los Angeles. Et en plus, il y avait une petite dépression à l'ouest de Los Angeles qui aspirait cet air très chaud. Et donc Los Angeles était sur le passage. Donc de l'air très chaud, très sec, une végétation luxuriante et très sèche. Et donc, il suffisait finalement d'une étincelle, quelqu'un qui balance son mégot, un bout de verre qui chauffe, et pof, ça a déclenché plusieurs feux à Los Angeles. Alors ça, c'est le déclencheur des feux. Après, on peut regarder l'histoire, la chronologie des événements. Los Angeles, c'est la même latitude que Tunis, donc c'est bâti sur du désert, c'est une zone désertique. Il y a la végétation, mais c'est une végétation méditerranéenne, semi-désertique. Et puis, il y a très peu d'eau, et pour éteindre ces feux, il faut de l'eau. Et l'eau, elle vient de réservoirs d'eau. Et il se trouve que l'essentiel des réservoirs d'eau a été utilisé pour essayer d'éteindre le premier feu. Et quand le deuxième feu est arrivé, il n'y avait plus assez d'eau. Donc c'est un concours de circonstances qui sont purement humaines, qui font qu'il était très difficile d'éteindre ces feux. En plus, il n'y a pas que la végétation qui a brûlé, s'il y a des bâtiments, sinon on en parlerait peut-être moins. Et vous savez que Los Angeles est bâti sur une zone sismique. Et donc, pour résister au séisme à moindre coût, en fait, ce qui est normal, on bâtit des maisons en bois, ce qui est tout à fait raisonnable, mais le bois, ça brûle. Donc tout un cocktail qui fait que la moindre étincelle en fait devenait un danger pour toute la population de Los Angeles.
D'accord, j'avais vu d'ailleurs, il y a la journaliste Audrey Garrigue qui avait dit sur un podcast du Monde qu'apparemment il y a des villes entières à Los Angeles, enfin en Californie, où 90% des bâtiments sont en bois.
Oui, et c'est pas un défaut de conception. C'est, ils font exprès pour résister aux tremblements de terre. C'est-à-dire que quand ils auront leur tremblement de terre majeur, les maisons ne tomberont pas sur le sol. Mais en revanche, le bois brûle.
Oui. Ce qu'on pourrait parler aussi, c'est l'aménagement du territoire, finalement, parce que c'est une des décisions qu'on peut prendre face au changement climatique, puisque dans les faits, on n'enrayera pas tout de suite, même si on le voulait, le réchauffement climatique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour se prémunir un peu plus sur l'aménagement du territoire? Est-ce qu'il y a des politiques, des idées, des solutions un peu à court terme, on va dire?
Alors, on va revenir en France, on va arrêter de parler de Californie. L'aménagement du territoire, oui, il y a beaucoup d'initiatives, par exemple avec la ville de Paris, pour rendre la ville plus verte. Alors, c'est pas forcément pour améliorer la qualité, enfin, ça améliore la qualité de l'air aussi, mais une ville plus verte, et surtout qui devient une éponge plutôt que bétonnée, ça peut réduire l'impact de vagues de chaleur sur la température. S'il se met à faire très chaud à cause d'un anticyclone, justement, on peut finalement réduire la température de surface s'il y a plus de verdure et plus d'eau. Et l'eau, il ne faut pas qu'elle s'en aille, parce qu'a priori, que sur du béton, l'eau tombe et s'en va directement à la rivière. Et trois jours après, en fait, vous n'avez plus d'eau sur le sol. Toute l'eau est partie dans la rivière. Elle a peut-être fait des débordés, mais... Donc, il est très important d'être capable de garder l'eau qui tombe, donc la stocker sous une forme ou une autre, donc sous forme de végétation, sous forme de terre. Et il y a beaucoup d'efforts entre la ville de Paris, Lyon, d'autres grandes villes, pour les rendre plus résilientes à des vagues de chaleur et finalement, quand on a une catastrophe comme des pluies intenses, être capable de faire en sorte que cette catastrophe soit une opportunité pour garder de l'eau. Donc le moins de béton, c'est une manière de résister mieux au changement climatique. Donc dans le sud de la France, par contre, vous voyez Nice, vous voyez Cannes, c'est du béton partout. Donc des cyclones des tempêtes comme Alex en 2020, ça a été terrible parce que chaque goutte qui tombait, plutôt que de rentrer dans le sol et s'infiltrer, en fait, elle dévalait les pentes et emportait tout ce qui se passait. Donc ce qui s'est passé à Valence, c'est exactement ça.
D'accord, oui.
Du coup, maintenant, on va passer au caps ou pas caps avec Louise.
Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous prenez pour un imbécile.
Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un petit quiz. Alors notre thème du jour étant les catastrophes naturelles, j'avoue que j'avais du mal à faire un quiz sur les records de nombre de morts ou le type de catastrophes les plus meurtriers de l'histoire, c'était pas très fun. Alors pour vous secouer un peu, j'ai plutôt décidé non pas de me concentrer mais de m'épicentrer sur les séismes. Alors d'abord, petit rappel, qu'est-ce qu'un séisme ou un tremblement de terre puisque ça veut dire la même chose. Donc du coup, je pourrais vous laisser répondre en soi là, tout de suite. Mais c'est un peu large, alors je vous dis. C'est une secousse plus ou moins violente du sol qui résulte de la libération brusque d'une énergie accumulée par des contraintes exercées sur des roches. Et ces tremblements de terre peuvent avoir quatre origines. L'origine la plus commune qu'on connaît tous, c'est quand il y a une rupture de faille ou d'un segment de faille lié au phénomène de la tectonique des plaques. Mais d'après vous, à part ces séismes d'origine tectonique, quelles sont les trois autres origines possibles d'un séisme? Je vous laisse réfléchir.
Je crois qu'il y a les volcans.
Ouais, j'ai dit même sur volcanique.
Tout le monde est d'accord
ou pas?
Alors oui, c'est vrai. Il y a les volcans, en effet. C'est même ce qu'on appelle un trémor. C'est engendré par la remontée du magma dans la cheminée volcanique et ça précède généralement donc une éruption volcanique. Et donc c'est en fait les vibrations sismiques qui peuvent provoquer des chocs du magma. Il y a des bulles de gaz volcanique et des blocs solides qui peuvent se cogner contre la paroi des cheminées volcaniques et donc on a affaire à un séisme. Mais la chose inverse peut se passer aussi. Il arrive que des séismes engendrent des éruptions volcaniques. Et c'est par exemple arrivé en Indonésie, au Merapi, en 2006. Un séisme qui s'était produit sur l'île de Java, à une centaine de kilomètres du volcan, avait provoqué ensuite une éruption. Bon, du coup, il en reste deux.
Qu'on pourrait dire, je sais pas, un objet tombé du ciel.
Ah ouais, ça peut être pas mal, ça.
Mm-hmm. C'est pas une explosion, une détonation.
Un tsunami peut-être.
Alors non,
c'est un séisme, ça, justement.
Les séismes peuvent provoquer aussi des tsunamis.
Tsunami, c'est plutôt l'inverse. Ouais.
Est-ce qu'il peut y avoir peut-être des effondrements de sol, un truc comme ça, des cavités,
la fracturation pour chercher du pétrole ou des gaz.
Oui, alors ça c'est plutôt du coup humain alors.
Oui, bah, dis-tu.
Donc c'est ça, ça rentre un peu dans une des catégories qui est le séisme d'origine artificielle ou séisme induit. Donc de faible à moyenne magnitude le plus souvent, mais qui sont dus à certaines activités humaines telles que les barrages, les extractions minières, les explosions souterraines ou nucléaires, ou même des bombardements. Et ensuite, dans tout ce qu'on disait, craquement, il y a aussi tout ce qui est séisme polaire. C'est une autre catégorie. Et c'est souvent les calottes glaciaires qui craquent et donc ce craquement se répercute dans la croûte terrestre. Et donc là, avec le dérèglement climatique, on peut imaginer aussi qu'il y aura plus souvent ce genre de choses. En tout cas, on parlait des séismes d'origine artificielle tout à l'heure, Pascal avait trouvé. Est-ce que vous savez quel est l'événement qui a provoqué un séisme induit, donc artificiel, en juillet 2023 dernier ? Faut un peu rêver. Hein.
Une rêve, des gens qui tapent du pied.
2023. C'est pas mal, là on y est
qu'est-ce
presque.
Qu'est-ce
qui s'est passé ?
En juillet 2023.
Bah, plein de gens.
Oui, ils ont sauté et il me semble que du fait.
Ils sont rassemblés
ensemble. C'était où ? Je me souviens.
Ah, c'était un festival ?
Presque. Enfin, pas un festival, mais on est dans le thème, ouais.
Ok, il y avait un
Taylor
Swift.
Ah, ouais.
Exactement.
Elle est partout.
Alors, oui, elle est partout. Le concert de Taylor Swift à Seattle, aux États-Unis, par exemple, avait provoqué une activité sismique de magnitude 2.3. Voilà, c'était en juillet 2023. Et les vibrations enregistrées par les sismographes ont été attribuées donc à la foule. Il y avait plus de 144 000 fans et du coup aussi un système de son qui était très développé. Donc voilà, ça a été associé à ces vibrations-là. Voilà, mais donc c'était à Seattle. Et pour rester à Seattle, on va rester à Seattle. Je vais vous raconter une autre histoire. En septembre 2023, une étude publiée dans Science Advances a tenté de dater un événement sismique passé. D'après les légendes du peuple Salish, qui vit sur la côte pacifique nord des États-Unis. Il disait donc à l'époque, la légende veut que les falaises et les lacs de la région seraient apparus le jour où un esprit avec un corps de serpent géant aurait fait trembler la terre. Et effectivement, si on se rend sur les lieux, la morphologie des lieux donc semble corroborer cette légende. Et donc les chercheurs ont cherché à situer cet événement sismique dans le temps. Et à votre avis, comment est-ce qu'ils ont fait puisqu'il n'avait pas de sismographe, enfin en tout cas il n'y avait pas d'empreinte au niveau des sismographes qui n'existaient pas à l'époque. Donc comment est-ce qu'ils ont pu dater au final ? Une technique assez classique en science finalement.
Ils ont regardé les couches de sédiments qui avaient bougé ou un truc comme ça.
Pas mal.
Peut-être en allant profond, dans des vieilles couches terrestres, en forêt, des carottes.
Pas mal. En tout cas c'est avec un élément naturel,
Ok. Ah oui, pour la datation.
Ouais.
Ah bah, il y a le carbone 14.
Alors oui, il y a le datation. Ouais, exactement. mais ils ont... Et donc oui, c'est ça, c'est avec cette technique-là de la datation au carbone 14. Et c'était notamment aussi en étudiant les cernes des arbres. Voilà. Et du coup, leur analyse a finalement suggéré des secousses sur une période de 6 mois entre les années 923 et 924 de notre ère. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a au moins 1100 ans, deux failles sismiques proches de ce qui est aujourd'hui la ville de Seattle se sont rompues, mais en même temps, au même moment quasiment, provoquant un puissant séisme et ça aurait dévasté les forêts et ouvert de nouveaux lacs. Donc, d'où les arbres et les indices qui étaient
ensuite. Et il n'y avait pas Taylor Swift à l'époque.
Non, il n'y avait pas Taylor Swift.
C'est pas de sa faute, cette fois.
Voilà, du coup, en tout cas, de quoi marquer les esprits et les récits de l'époque. D'ailleurs, dans ce même registre de récits à propos des séismes, le 1er novembre 1755, un jour de Toussaint, Voltaire réagit en tout cas à un tremblement de terre, très connu. Il écrit « 100 000 fourmis, notre prochain, écrasé d'un coup dans notre fourmilière, quel triste jeu de hasard, que le jeu de la vie humaine. De quelle fourmilière s'agit-il ? Quelle ville a été touchée par le séisme ?
C'était au Portugal, non ? C'était Lisbonne ?
Oh,
on a oh, des y a un connaisseur personnes de Voltaire, très fortes ici.
J'ai appris ça dans un jeu vidéo.
C'est même pas drôle, les réponses sont trouvées trop facilement.
C'est vraiment ça. Oui,
c'était dans mon livre aussi.
Ah, voilà. Voilà.
J'ai trouvé ça en lisant son livre.
pas dans le jeu vidéo. Bon, bah, c'est ça, bravo. Le séisme, il avait eu lieu le jour de la Toussaint et donc de nombreuses personnes étaient rassemblées au même endroit et on estime entre 20 000 et 60 000 le nombre total de morts. Pff, j'avais dit que je parlerais pas de morts, désolé. Voilà, en tout cas, du coup, est-ce qu'on pourrait parler peut-être, je sais pas, si on a encore un peu le temps.
On va devoir faire une petite pause musicale, malheureusement.
C'est parfait.
Ah, terrible.
Du coup, on va écouter Float the Home. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, les 20h44, et vous écoutez l'Happy Hour Scientifique.
L'Happy Hour Scientifique sur Radio Campus Paris.
Du coup, pour cette troisième partie d'émission, on va continuer avec la chronique de Manoli qui va revenir sur les inégalités des hommes face aux catastrophes naturelles.
Eh oui! Ces 50 dernières années, des études ont montré les inégalités auxquelles les hommes sont confrontés avant, pendant et après une catastrophe naturelle. Ces inégalités existent à plusieurs niveaux, entre les pays riches et les pays en développement, mais aussi au sein d'une même société, entre les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, comme d'habitude. En effet, entre 1977 et 2017, 93% des décès recensés par le Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres ont eu lieu dans des pays non membres de l'OCDE, a.k.a. l'Organisation des pays développés qui œuvrent pour leur propre bien-être économique et social. Donc ce sont vraiment les pays les plus touchés qui sont les moins préparés. Alors que, on le sait maintenant, les catastrophes naturelles sont accentuées par le réchauffement climatique et que ce sont les pays les plus riches qui émettent le plus de CO2 alors qu'ils sont épargnés. En 2007, des économistes américains ont fait une estimation, c'était avant Trump, les pays riches auraient une dette écologique de 2300 milliards de dollars. Et ça a sûrement augmenté depuis.
Mais comment ça, des inégalités avant la catastrophe ?
Eh bien, les pays les plus exposés aux aléas naturels, donc les pays en développement, n'ont pas les moyens de mettre en place de politiques de réduction de risques efficaces et s'en remettent au hasard en espérant d'être épargnés. Et dans ces régions, les infrastructures sont moins résistantes et les dispositifs d'alerte moins performants. L'ouragan Irma en est un bon exemple. À Saint-Barthélemy, les constructions parasismiques ont permis de limiter grandement les dégâts, là où à l'île Saint-Martin, tout a été ravagé.
Il y a donc des inégalités pendant.
Eh oui, les inégalités se manifestent aussi dans la capacité à réagir et à s'abriter pendant la catastrophe. Les populations défavorisées ont souvent moins d'informations sur l'évolution du danger, peu ou pas de moyens de transport pour fuir et aucune alternative d'hébergement.
Donc avant, pendant et même après.
Et oui, malheureusement, le calme n'arrive même pas après la tempête. Dans certaines régions, des crises alimentaires s'ajoutent aux destructions et les pillages se multiplient. Les plus pauvres, souvent sans assurance, dépendent des fonds d'urgence qui sont insuffisants. Ils peinent à retrouver un logement et à reprendre une vie normale alors que les plus aisés peuvent rapidement se reconstruire. Et en plus d'être favorisés, les riches en profitent.
Les riches en profitent.
Et oui, ce chaos sert parfois de prétexte à l'expropriation des plus pauvres. On abandonne des quartiers détruits pour faire déserter leurs habitants et gentrifier le terrain ensuite. Et en plus, on déplace le problème. C'est la catastrophe à Mayotte et à l'Assemblée nationale, on parle de submersion et de durcissement de politique de frontières. Donc en somme, les catastrophes naturelles ne sont jamais de simples événements climatiques. Elles révèlent et amplifient des inégalités existantes et profitent souvent aux plus puissants, au détriment des plus fragiles.
Ben merci beaucoup pour ta chronique et on va réenchaîner avec l'interview. Justement, Pascal, est-ce que vous voulez réagir sur un élément de cette chronique ?
Oui, par exemple, sur la notion de catastrophe naturelle. Donc, avec quelques collègues, on a écrit une tribune dans Le Monde, mais qui reprenait en fait des arguments qui existent depuis quelques années. Est-ce qu'on peut vraiment parler, est-ce que naturel, c'est le meilleur adjectif pour parler de catastrophe, surtout quand on parle de Mayotte ou des Antilles. On a un aléa climatique, certes, qui est sans doute naturel, mais la catastrophe elle-même, en termes de bilan humain ou économique, elle n'est pas du tout naturelle. C'est vraiment lié au fait qu'on a décidé de laisser les gens souffrir en silence ou non, mais c'est vraiment, ça a été un choix politique d'exposer ces gens à l'aléa qui est naturel. Donc la catastrophe n'est pas nécessairement naturelle. Je pense que le changement climatique, finalement, a bon dos par rapport aux catastrophes qu'on qualifie de naturelles, alors qu'elles n'ont rien de naturel. Et c'est vraiment, la catastrophe est liée à notre action ou manque d'action sur l'aménagement du territoire, la protection des plus faibles.
Mais justement, les politiques préfèrent soigner les conséquences que la cause, parce que dans ce sens, enfin, il y a des territoires où on sait qu'il y a un grand risque. C'est pas pour autant qu'ils prennent des initiatives pour faire en sorte que si ça arrive, au moins tout a été conçu pour que ça résiste. Ils préfèrent soigner, enfin guérir quoi, ce qui va, les conséquences.
Ou même laisser la guérison à leurs successeurs. Enfin, j'ai en tête cet exemple de la fameuse autoroute qui relie Toulouse à qui prétend relier Toulouse à Castres, qui est une aberration écologique et climatique. Et quand on voit ce qui s'est passé à Valence et à d'autres endroits, on n'a pas envie de bétonner ce genre de région où on peut avoir des épisodes cévenols où il va pleuvoir 100 mm en une journée, enfin, ce qui remplit tout d'un coup. Pourquoi faire ça ? Pour gagner quelques minutes, pour que les plus riches gagnent quelques minutes pour aller d'un endroit à un autre. Je sais pas, enfin, je comprends pas le raisonnement derrière ça. et qui consiste vraiment à reléguer à plus tard, donc à nos successeurs, nos enfants, nos petits-enfants, ou la mandature suivante, les problèmes qui peuvent se passer en cas d'aléa climatique. Donc là, la catastrophe, elle est annoncée, on le sait à l'avance. Quand vous me demandiez qui pouvait prévoir, je dis moi, mais tous mes collègues savent que ce genre de décision est une catastrophe déjà, et qui va conduire à d'autres catastrophes.
Après la lutte des classes, la lutte des risques.
La lutte des risques, Ulrich Beck. Et c'est vrai qu'il y a un peu des fois une dissonance entre le temps court du politique et le temps du mandat et le temps long des chercheurs, de prévision sur le long terme. Et voilà, il y a une espèce d'incohérence qui font qu'il y a des fois ce manque d'action. Et pour reprendre un peu la fin de la chronique de Manoli, hein, qui parlait des submersions migratoires qui sont dans les débats à l'Assemblée nationale, donc qui agitent déjà beaucoup de terreur. On sait que les catastrophes climatiques vont engendrer forcément des migrations climatiques aussi. Est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que vous voulez un peu parler de tout
non,
ça?
Non, alors en termes de migration, j'ai pas de modèle, c'est pas mon métier, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais j'ai vraiment en tête l'exemple du Nord-Pas-de-Calais fin 2023. On a eu des inondations terribles, mais ça a duré très longtemps. Il y a eu cette tempête Kiaran, puis Domingos en novembre, et puis après plein d'autres dépressions, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et donc, on a eu des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais qui est très plat. Donc, l'eau s'évacue très mal. Il y a ces systèmes de vatringes qui sont censés évacuer l'eau. Mais là, ça ne suffisait pas. En plus, il y avait des grosses marées. Donc, s'il y a des grosses marées, l'eau, elle ne va pas plus loin que la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, des gens étaient désespérés. Donc, ils parlaient de partir, donc de quitter leur domicile, leur région. Donc, en fait, les premiers réfugiés climatiques, en fait, ça risquait d'être eux. Donc, on parle de réfugiés climatiques français, même en métropole, des gens qui veulent pas quitter leur... Alors, imaginez des îles du Pacifique, des gens qui ont encore moins que ça... Eh bien, voilà, les réfugiés climatiques, c'est ces gens-là, ces gens qui ne peuvent plus habiter là où ils sont. Et donc là, on touchait du doigt cette notion de refuge climatique, parce qu'on ne peut plus vivre là où on habite. Alors, je ne travaille pas du tout là-dessus, mais il y a des gens qui sont très, très compétents pour ce genre de considération. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits sur Terre, et en particulier en France, qui risquent de devenir nettement moins vivables qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent.
Mais il risque d'y avoir un genre de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont fuir les inondations, d'autres qui vont fuir la chaleur. Du coup, ils vont aller où? Parce que tout le monde va se retrouver peut-être au même endroit, mais il n'y aura pas de place.
Oui, tout à fait, se retrouver en Angleterre. Bah, de la place, il y en a en France. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas habités pour des raisons qui sont évidentes, parce que c'est des zones agricoles, c'est des zones escarpées. De la place, il y en a. Des ressources, on en a. C'est qu'il faut les utiliser de manière parcimonieuse ou de manière raisonnée et de faire en sorte que les zones où on se réfugie, où on habite, soient les plus résilientes possibles et faire en sorte que on résiste à des vagues de chaleur, on résiste à des pluies énormes et que même s'il y a des pluies énormes, finalement, il ne faut pas que ça soit trop grave. Et pour ça, on parlait des différences de richesse. Il y a des gens qui sont capables de changer d'habitation d'un claquement de doigts, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas partir pour plein de raisons. Soit ils n'ont pas les moyens, parce que c'est leur vie. Et il faut prendre tout ça en compte dans les politiques finalement d'aménagement du territoire. Et c'est un problème, je comprends, qui est très difficile.
D'accord. Peut-être justement comprendre ce que c'est votre travail. Vous dites qu'il y a des gens qui travaillent à chaque fois sur des trucs très précis, comme les vagues d'immigration route. Donc Pascal, toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Climatologue, tu fais de la recherche, prévention ou c'est...
Alors, je fais de la recherche. Alors, je suis climatologue de formation, je suis plutôt mathématicien. Donc, je fais quelque chose qui s'appelle de la climatologie statistique. Je m'intéresse aux événements extrêmes. Donc, je travaille sur la modélisation des événements extrêmes. Et un truc très particulier qui m'intéresse, c'est voir la relation entre le changement climatique et certains événements extrêmes. Donc, ce qui conduit à ce qui s'appelle maintenant l'attribution d'événements extrêmes. Donc, quand un événement extrême arrive, donc, par exemple, cette succession de tempêtes qui a touché l'ouest de l'Europe, donc l'Irlande, l'Écosse, l'Irlande, et puis dans une certaine mesure la France, est-ce qu'on est capable de dire quelque chose qui lie ces événements, cette succession d'événements extrêmes au changement climatique ? Donc, il y a d'autres exemples sur lesquels on travaille. Donc, il y a tout un. Alors, c'est pas simple de pouvoir répondre à cette question. Donc, je travaille sur les méthodes mathématiques, statistiques, physiques, qui permettent d'avoir des clés pour répondre à ce genre de questions. Donc, en particulier, j'ai contribué à ce programme qui s'appelle Climameter, qui fait de l'analyse d'événements, qui permet de faire une analyse d'événements extrêmes en temps quasi continu, c'est-à-dire qu'il suffit de quelques heures à un être humain pour avoir un certain panel de diagnostics intéressants qui permettent de voir en quoi un événement extrême qu'on vit, hein, par exemple ce qui s'est passé la semaine dernière, s'il s'était passé il y a 40 ans, est-ce qu'il aurait été aussi intense ? Voilà une question qu'on se pose. Et il se trouve que ce genre d'événement, en fait, il y a 40 ans, avec des conditions météorologiques identiques, en fait, aurait été moins intense. Bon. Il y a beaucoup d'événements pour lesquels on ne peut rien dire. Okay. Donc, l'attribution à un signal nul. Mais il y a beaucoup d'événements pour lesquels on peut dire si on ne se prononce pas sur l'existence de l'événement, on se prononce juste sur son intensité. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup d'événements pour lesquels le changement climatique a induit une intensification de l'événement.
D'accord, donc tout ça, on peut le retrouver sur le site Climameter.
Tout à fait.
Que tu as participé à développer.
Voilà, j'ai participé au développement de l'outil, enfin, ce qui permet de faire le calcul, enfin, même le concept même du calcul de l'attribution. Après, maintenant, j'ai plein de collègues qui font ça, qui ont mis en place la chaîne de traitement des données, parce qu'il faut récupérer les données toutes les heures ou tous les jours. Donc c'est un problème informatique un peu complexe, parce que c'est des formats bizarres. Après, il faut faire les figures, il faut que ça soit parlant, il faut les faire automatiques. Il y a plein de petits ajustements. Et puis après, il faut écrire un rapport qui fait une page, qui est très cadré, qui permet de faire le lien entre ce qui se passe, le changement climatique, et ce qu'on sait dans les rapports du GIEC, par exemple. Donc il s'agit aussi d'avoir une petite connaissance de ce que disent les rapports du GIEC, pour mettre en perspective ce qui nous arrive au fil du temps.
D'accord. Eh bien, merci Pascal, et merci à tous ceux autour de la table. C'est la fin de la Happy Hour scientifique. On se dit à dans un mois et vous pouvez nous retrouver en attendant en podcast sur Spotify. Salut à tous.
Au revoir.
Merci,
au revoir
à tous. Salut.
Au revoir, bonne soirée.
Bon, bah, et messieurs, hein, à la prochaine. Et au revoir. Et puis, faut bon retour. Hein. Au revoir, messieurs.